Chers amis, auditeurs, auditrices, lecteurs, lectrices, et même si tu n'es que de passage et que tu t'es perdu ici, bienvenue à tout le monde. Je vous remercie d'être présent pour ce 11e Facebook Live d'Exilium, durant lequel, vous le savez, je me suis engagé à lire l'intégralité du roman fantastique Exilium, paru en 2015, et qui, dont l'accent se situe tout simplement dans le Berry, dans le Cher plus précisément. Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est le 11e live concernant ce roman. Et aujourd'hui est un chapitre un peu charnière, voire beaucoup charnière, parce que suite à tous les événements un peu particuliers que notre personnage Frédéric a dû traverser, Eh bien, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de réponses. Pas toutes, mais les réponses viennent à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est véritablement un chapitre clé. D'autres suivront, bien entendu. Un chapitre 8 qui d'ailleurs sera partagé en trois parties. Donc, les deux premières seront un petit peu plus courtes. On terminera en principe à 19h. Et la troisième, donc dans trois jours, sera un petit peu plus longue. Plutôt dans deux jours. Sinon, bah écoutez, je vois que déjà plein de gens très sympathiques que je connais sont connectés, m'ont fait un grand coucou. Je les saluerai tout à l'heure davantage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la lecture. Moi, je chausse mes lunettes. Et comme tous les jours, nous allons faire un résumé de la lecture précédente pour pouvoir vous remettre dans le bain. Attention, c'est parti, de votre côté, vous fermez les yeux, vous vous installez dans votre siège, dans votre fauteuil, où vous voulez, vous vous laissez aller à la lecture, et c'est parti. Résumé de la lecture précédente. Barricadé dans la salle informatique, Frédéric et cinq internes n'attendent qu'une seule chose. Que la bête qui a pénétré le dortoir reparte comme elle est venue. Par le petit hublot de la porte, Jimmy a le temps de voir les yeux blancs de la chose avant qu'elle ne saute par la fenêtre et disparaisse. Fenêtre que Frédéric referme aussitôt. Guilhem et Kevin, réfugiés dans leur chambre, sont toujours vivants et ne paraissent pas plus perturbés que cela. La nuit se termine dans la salle informatique, où les plus jeunes internes se sentent davantage en sécurité, en compagnie des plus grands et de Frédéric. Chapitre 8. Première partie, jeudi matin. Mais quel étrange réveil ! Il me fallut un moment pour réaliser où je me trouvais, comprendre pourquoi des gamins squattaient ma chambre. Ah ! Non, c'était pas ma chambre. C'était la salle informatique, transformée en chambre l'espace d'une nuit. Par bribes, la réalité reprit ses droits, et les souvenirs avec. Aucune nouvelle manifestation de la chose ne fut à déplorer. Au sein du groupe, le silence. Pas même un ronflement, une vocalisation, voire une flatulence matinale, alors que sur ce dernier point, je savais la tentation grande pour certains. Ils se reposaient de leurs émotions, c'était l'essentiel. Il était même étonnant que leur sommeil ne fût pas plus troublé que cela. La luminosité ambiante me confirma que le soleil s'était levé avant moi. Mais depuis combien de temps ? Le devoir m'appelait maintenant. Ou plutôt, l'appel de la maison, mon refuge à moi, certainement plus sécurisé que ce dortoir bizarre. Avec précaution, je déplaçais la table qui barrait l'entrée. Je déportais aussi les tables devant l'issue de secours pour les rapprocher du local à matelas. Les jeunes auraient le temps de les ranger dans la journée, sinon on verrait ce soir. Par la fenêtre du sas, je constatais que la neige avait perdu sa texture initiale. Elle était devenue brillante et pâteuse, comme une sorte de meringue pas cuite. Je ne sus à quelle heure de la nuit la neige avait cessé de tomber, mais le redoux activé par le vent en avait amorcé sa lente liquéfaction. Les rares surfaces épargnées par les flocons étaient déjà à nu. À cette vitesse de fonte, moi je ne donnais pas plus d'une journée pour que les axes routiers soient dégagés. Je passais un coup de vent dans ma chambre pour poser le duvet, m'habiller, récupérer les clés et le téléphone. Il était près de 9h déjà. Moi je prendrais la douche chez moi, j'avais plusieurs gens à faire. Avant de quitter le dortoir, je vérifiais la chambre de Guilhem. Il n'était pas dans son lit. Au fur et à mesure que je me rapprochais de celle de Kevin, je constatais que les tables qui bloquaient la porte d'entrée avaient été déplacées. Et Kevin n'était pas non plus dans son duvet. Les sanitaires étaient silencieux et les lumières éteintes. Les deux polistes prenaient peut-être leur petit déjeuner au réfectoire. Je les verrai plus tard. Je déverrouillais avec précaution les lourdes et bruyantes portes du dortoir que je quittais avec un nœud au ventre, armé de scrupules à devoir laisser les internes seuls pour la journée. Mais le réseau mobile était de nouveau accessible. Les élèves pouvaient donc m'appeler à tout moment si nécessaire. Sitôt les deux pieds dans la meringue, ma première envie fut d'aller contrôler le trajet emprunté par notre visiteur de nuit après sa fuite précipitée. Sous la fenêtre du sas, les traces dans la neige étaient bien là, malmenées par le redoux, mais identifiables. Elles n'étaient pas aussi bien dessinées que les marques laissées par des pattes de moineau. J'étais plutôt face à un assortiment de crevasses et de mottes, comme si l'allée s'était pris des coups de pelle. Ces marques contournaient le bâtiment d'internat pour s'arrêter juste sous la fenêtre de Kevin. Je ne compris pas. Cette chose était-elle repassée par la fenêtre de la chambre de Kevin? Impossible. J'avais moi-même vérifié la fenêtre de la chambre et les quatre internes présents pouvaient attester qu'il n'y avait rien d'autre que nous dans la pièce. Je vis en revanche de longues stries sous la fenêtre. Une preuve que la chose s'était agrippée là à un moment ou un autre. Mais je ne vis aucune autre trace hors du circuit fermé entre le sas à côté de la salle informatique et la chambre de Kevin. Cette chose nous avait-elle donc quitté en escaladant les murs comme une araignée? Ouh, à cette simple pensée, un frisson me parcourut le dos. Allez, direction chez le proviseur. Nous avions beaucoup de choses à nous dire ce matin et il avait intérêt à cracher le morceau. Sur le chemin, j'eus la surprise d'apercevoir mes deux polistes qui sortaient du bâtiment administratif. Quand ils me virent, ils stationnèrent jusqu'à ce que je les rejoigne. Et Guilhem salua le premier. « Ça va, Fran? T'as réussi à passer une bonne nuit avec tout ce bazar ?» Je n'étais vraiment, vraiment pas d'humeur à lui répondre. Et pourtant, Guilhem ne s'en offusqua pas et il poursuivit. « Tu vas voir le proviseur ?» On lui a parlé de ce qui s'est passé cette nuit. Il va t'expliquer. On reste sous le préau si tu veux nous voir juste après. J'eus l'impression d'entendre le même discours confus et vaporeux de Lewis. Mais expliquez quoi? L'absurdité de cette semaine de merde? Passablement agacé, j'abandonnai mes deux polices sans même les saluer et pris le chemin du bureau du proviseur. La porte du bureau était ouverte. J'étais manifestement attendu. Le proviseur m'accueillit avec une chaleur peu coutumière et me mit vite à l'aise. Il réussit à faire baisser mon niveau d'alerte d'un cran finalement. « Frédéric, venez, je suis heureux de vous revoir. » Il se dirigea vers une petite table disposée dans un coin du bureau sur laquelle trônait avec fierté une cafetière expresso au dernier modèle. « J'ai eu vent des événements que vous avez traversés cette nuit. Kevin et Guilhem m'ont tenu informé. Ils en étaient désolés, croyez-le bien. Et je suis à même de vous les expliquer dans les grandes lignes si vous acceptez de prendre un café avec moi. Je ne vous cache pas que je vais vous surprendre. Mais la vie elle-même est une surprise à elle seule, n'est-ce pas? Vous vouliez des réponses, mais je vais vous les donner. Alors Frédéric, êtes-vous partant pour un bon café ?» Je sentis ma tension se relâcher d'un coup, même si je résistais à l'idée que ce fût le proviseur qui puisse expliquer les événements de la nuit, et encore moins l'origine de notre intrus. Mais je pris de profondes inspirations que j'accompagnai d'un franc sourire. Bon alors pour commencer, excusez-moi, bonjour, et puis ensuite, monsieur le proviseur, mais c'est avec un grand plaisir que je prendrai un énorme café avec vous, avec deux sucres s'il vous plaît. La capsule d'Arabica diffusa son arôme dans toute la pièce, comme une invitation à la détente. Frédéric, je sais que vous aimez bien ce fauteuil sur lequel vous prenez toujours place, alors non seulement vous allez vous y installer une fois de plus pendant que nous discutons ensemble, mais vous allez le ramener à la vie scolaire ensuite, vous y serez plus à l'aise pour gérer les absences. Cadeau sincère ou empoisonné, la réponse ne se fit pas attendre. J'ai remarqué que vous n'étiez pas très bien installé dans votre bureau exigu, alors considérez ça comme une démonstration que je ne suis ni indifférent, ni étranger à ce qui se passe hors de mon officine. Mais bon, venons-en au fait. Le proviseur me servit le café, attrapa sa tasse, puis réinvestit son spacieux fauteuil de cuir dont toute convoitise serait vouée à l'échec. Après m'être installé avec confort sur mon nouveau cadeau, le doute m'assaillit, je ne sus par quelle question entamer le débat. Mais le proviseur, finalement, me facilita la tâche. « Frédéric, avez-vous entendu parler du Legati ?» Du lait Gatti? C'est quoi? C'est une marque de lait? Le proviseur épela. Lait Gatti, L-E-G-A-T-I. Non, c'est la première fois que j'entends ce mot. Eh bien, c'est tout à fait normal, alors je vais vous expliquer. Moi, je vais commencer par la version courte, puis on s'étendra sur la longue, qui réclamera de votre part un certain effort d'assimilation, je dois le reconnaître. Un lait Gatti, c'est cette créature que vous avez vue cette nuit. Et voilà, vous venez d'entendre la version courte. Le proviseur fit semblant de boire une longue gorgée d'un café trop brûlant, à dessein de marquer la pause pour scruter ma réaction. Je subodorais le vilain canular. Ok. Captains, comme cette semaine est plus cool, vous avez décidé, avec la complicité de quelques élèves, de monter une bonne grosse blague pour moi, c'est ça? Ah, je ne vous savais pas si taquin. C'est sympathique. Allez, c'est sympathique. Frédéric. Est-ce que vraiment votre nuit fut cool? Est-ce que vous pouvez me dire que ces deux jours ont été cool pour vous? Le proviseur apprécia peu l'interprétation que je donnais à sa version courte, et je ne sus si je devais me sentir rassuré ou non qu'il pût donner un nom à cette chose. En même temps, j'acquis la certitude que ce n'était pas une nouvelle espèce d'animal à découvrir. Bien, au moins quelqu'un qui sait ce que c'est. En fait, je n'ai pas vu grand-chose, hein. Plus exactement, j'aperçus une sorte de longue queue, au bout de ce que je crois être une tête, puis un élève a vu ses yeux blancs, mais ça ne va pas plus loin. Oui, au début, ce regard de porcelaine intrigue, mais rassurez-vous, Frédéric, on s'adapte vite. Donc depuis mardi, c'est un Legati qui nous pourrit l'internat? Mais c'est quoi ce truc, il sort d'où? De la forêt? Ce truc, comme vous dites, Frédéric, est totalement inoffensif, du moins tant qu'il ne se sent pas en danger. Vous n'avez strictement rien à craindre d'un Legati, sinon nous ne serions pas là à en discuter. Mais vous expliquer en quelques mots ce que c'est n'est pas une tâche aisée. Je vais donc y aller par étapes, ou dit autrement, je vais maintenant vous donner la version longue de l'histoire. J'ai tout mon temps, monsieur le proviseur, mais je vous écoute, et ça me passionne. Je bus d'une traite la première moitié de ma tasse, stimulé par ce que j'étais sur le point d'entendre. Frédéric, est-ce que vous croyez au loup-garou? Je fus déconcerté par cette question de gamin dans la bouche d'un proviseur. Mais bon, soit. Allez, je décidai d'entrer dans son mode de fonctionnement. Bien sûr que non, que je ne crois pas au loup-garou. La lycanthropie, je crois que ça s'appelle, ça appartient à la mythologie. Il n'y a que le cinéma pour nous faire peur avec ça, avec tout un tas d'effets spéciaux. Après, je sais qu'il y a des pathologies qui peuvent pousser des individus à adopter une sorte de comportement animal. Mais bon, jusqu'à se transformer physiquement, en tout cas, pas en autre Legati. Ça, je peux vous garantir. Donc non, je ne crois pas au loup-garou. Mais vous avez raison, Frédéric. Les loups-garous n'existent pas, mais je note que le genre fantastique ne vous laisse pas indifférent. Moi, j'aime bien ce genre de film, ça me joue parfois des tours quand la nuit tombe, mais j'assume. Le proviseur laissa à une gorgée de café le soin d'imposer quelques nouvelles secondes de silence. On découvre dans la littérature fantastique des idées, des messages ou des concepts intéressants, voire pertinents. Je vous l'accorde, Frédéric. Maintenant, poursuivons. Est-ce que vous croyez à l'existence des vampires? L'interrogatoire prenait une tournure baroque. Mais je n'estima pas nécessaire de porter un jugement plus sévère que le précédent sur cette nouvelle question que je trouvais aussi débile que la première. Genre Dracula? Tout à fait, Frédéric. Je gigotais sur mon fauteuil. Je n'avais aucune visibilité de la route sur laquelle il m'entraînait. Mais écoutez, monsieur le proviseur, même réponse que pour le loup-garou, ces histoires d'humains qu'une malédiction a condamné à se nourrir de sang, alors là, définitivement, non. Autant j'adore voir ça au ciné ou devant mon écran à la maison, mais bon, voilà, c'est bon, ça s'arrête là, je sais que c'est du cinoche. Et là aussi, Frédéric, vous avez raison, du moins, ce qu'on en sait. Soyez malgré tout prudent avec vos certitudes. Il ne faudrait pas que vous vous fassiez un lambago en croulant sous leur poids. Et vous voulez en venir où exactement? Patience, Frédéric. Je suis simplement en train de vous ménager pour la suite. Vous me remercierez plus tard. Le proviseur finit son café, puis posa la tasse sur le bureau. Je pris les devants. Excusez-moi, monsieur le proviseur. La prochaine question, est-ce qu'elle sera sur le troll norvégien ou le Père Noël ? Il ne releva pas ma question à la limite de l'insolence, et que je trouvais pourtant amusante. Mais il entra plutôt dans le cœur du sujet. Frédéric, êtes-vous réfractaire à l'idée que des êtres vivants aient la capacité de changer de forme, de passer d'un état à l'autre avec une déconcertante facilité, simplement parce que la nature est pleine de ressources et on a décidé ainsi ? Je n'ai pas à être réfractaire ou non, hein. Si c'est la nature, c'est la nature, et puis c'est tout. C'est un fait que c'est vrai que des animaux peuvent changer de forme. Bah, tenez, il y a la chenille qui se transforme en papillon. Une fois, j'ai vu à la télé aussi une espèce de pieuvre qui changeait de couleur quasiment instantanément pour se protéger, et elle pouvait prendre l'apparence d'une pierre ou d'un autre animal marin. C'est assez surprenant. Mais pensez-vous que cette adaptation au milieu puisse aussi s'appliquer à des animaux plus imposants qu'une chenille ou une simple pieuvre ? Si vous appreniez que des mammifères de taille, disons moyenne, peuvent aussi naviguer à volonté entre deux apparences totalement différentes pour répondre aux exigences de leur environnement ou à d'autres objectifs dictés par Mère Nature. Le croiriez-vous ? Bah oui, pourquoi pas ? Enfin, il y a tellement de choses étonnantes dans la nature. En même temps, je crois savoir où vous voulez m'amener là. Si vous essayez de m'expliquer que votre legati serait le résultat d'une transformation, alors d'accord, je veux bien. Mais à quoi ça ressemble en temps normal ? Parce qu'on n'avait rien vu qui ressemblait à un porte-bonheur, hein, ça je peux vous l'assurer. Et comment aurait-il débarqué dans le dortoir ? Le legati, c'est une espèce animale berrichonne ou quoi ? Je terminais mon café, mais gardais ma tasse à la main que je tripotais par nervosité. Oh Frédéric, cela fait beaucoup de questions à la fois, au demeurant légitimes. Mais je poursuis. Vous savez que la nature est soumise à, on va appeler ça un ordre des choses, qui réclame une organisation de dominants et de dominés, un peu comme des chefs de groupe dans la société humaine. Pas des chefs haillons arrogants, la nature n'a pas d'orgueil, mais simplement des guides ou des gardiens, qui ont pour fonction de conduire, d'organiser, de diriger ceux qui sont sous leur coupe. Ben oui, mais chez beaucoup d'espèces d'animaux, il existe effectivement une sorte de hiérarchie, mais bon, ça n'a rien à voir avec les chefs humains. Ou c'est d'ailleurs parfois plus l'orgueil que le bon sens ou les capacités qui fait que certains deviennent chefs, hein. Je vois ça aussi au lycée, mais enfin bon, j'ai rien dit. Bon, c'est parfait tout cela, on va y arriver plus rapidement que je ne l'imaginais finalement. Vous êtes très réceptif, Frédéric. Comme quoi, être assistant d'éducation et intelligent n'est pas incompatible. J'eus comme une envie urticante de lui sauter dessus, de lui attraper la gorge et de serrer jusqu'à ce qu'il devienne violet. Mais finalement, j'ai réussi à me contrôler. Monsieur le proviseur, je préfère le prendre comme un compliment, mais bon, c'est peut-être un peu limite. En même temps, vous êtes quand même mieux placé que moi pour savoir que l'intelligence ne s'hérite pas, mais elle se construit. Je porte d'ailleurs l'espoir qu'un jour le système éducatif accepte de modeler ses programmes à la lumière de cette évidence. Bon, finalement, j'étais en forme. Le proviseur remarqua le lancer de balle du petit assistant d'éducation. Mais il avait bien plus important à expliquer et ne se lança pas dans un énième rapport de force stérile. Alors, laissez donc le système éducatif là où il est et redressons la barre. Êtes-vous conscient que ces chefs de groupe, appelons-les comme ça pour le moment, ne sont pas forcément choisis parce qu'ils sont les plus grands, les plus forts ou les plus beaux, mais simplement parce qu'ils répondent aux nécessités du moment et peuvent, à tout instant, être remplacés si ces besoins venaient changer. Oui, c'est la nature, c'est comme ça, mais c'est très bien organisé. Mais franchement, je vois toujours pas où vous voulez en venir, là. Bon, écoutez, puisque rien ne paraît vous choquer et que la découverte de nouvelles espèces animales semble vous passionner, vous serez heureux d'apprendre que chez l'espèce humaine, il existe aussi une catégorie d'individus privilégiés à qui la nature a offert la faculté de transiter à volonté vers une forme, disons, moins conventionnelle. Ce sont eux qu'on appelle les legati. Le proviseur marqua à nouveau la pause, le temps que j'assimile le coup de massue. Je préférais attendre la suite des explications avant de commenter. Dans certaines circonstances, ces legati ressentent le besoin de choisir une sorte de mentor pour les accompagner dans les deux mondes à la fois. Et leur quête a abouti, puisque vous avez été choisi. Des questions, Frédéric? Comment rester sans questions avec une telle annonce? J'étais même pas certain de ce que j'avais entendu. Les éclaircissements du proviseur étaient pourtant limpides, mais mes schémas cognitifs les repoussaient complètement. Les explications avancées paraissaient si grotesques et d'un ridicule, mais en même temps, c'est vrai, j'avais vu la chose. Elle n'avait rien d'ordinaire. Finalement, pourquoi est-ce que j'aurais dû m'étonner devant des explications qui, elles aussi, sortaient de l'ordinaire? Je vivais un instant totalement surréaliste. Dans l'attente d'informations complémentaires, je fis croire que j'acceptais volontiers ces explications, mais tâchais de mettre de l'ordre dans mes idées. Donc, monsieur le proviseur, je vais un peu résumer. Il existerait ici-bas des gens, enfin des êtres humains, je veux dire, on est bien d'accord, hein, capables de muter en autre chose, mais pour un loup-garou, parce que ça n'existe pas, pour un vampire, parce que ça n'existe pas. Sinon, c'est ça, on est bien d'accord, hein, des êtres humains qui peuvent muter en autre chose. Jusque-là, Frédéric, on est d'accord. Et donc, pour gérer leurs deux vies, ils ont besoin d'individus de confiance vers qui se tourner en cas de besoin. Est-ce que c'est ça? Moi, je n'aurais pas établi de meilleur résumé. Et donc, pour une raison que j'ignore, ils ont en ce moment besoin d'une sorte de guide ou d'inspirateur, soit pour en remplacer un des gens en place, soit pour en avoir un nouveau. Et c'est bien entendu un mec insignifiant comme moi qui a été choisi. Est-ce que je continue d'avoir tout bon? Non, Frédéric, vous synthétisez à merveille la situation. Ils ont effectivement une profonde affection pour les gens quelconques, comme vous. L'arrogance des grands de ce monde les lasse. Ça, je ne sais pas trop comment je dois le prendre, mais bon, peu importe. Je fixais le proviseur pour chercher mes mots. Puis, faute d'inspiration, je laissais le naturel s'exprimer. Bon, excusez-moi, monsieur le proviseur, je vous dois le respect, mais ça veut dire quoi tout ce bazar? C'est une farce ou quoi? Parce que si oui, c'est complètement nul. Si j'acceptais de prendre toutes les nuits de la semaine, ce n'est pas pour me faire balader, j'étais mieux chez moi. Le proviseur fit mine de fouiller dans ses dossiers. Je m'attendais de toute façon à ce type de réaction à un moment ou à un autre. Il faut le temps que ça rentre, c'est tout à fait normal. Je m'emportais. Bon, eh bien, c'est moi qui vais poser les questions maintenant, parce que vous pensez bien que je ne vais pas avaler ça cul sec. Le proviseur sortit de sa porte de vaisseau une carte de visite qu'il me remit de main à main par-dessus son bureau. J'attendais vos questions, Frédéric, donc allez-y, mais s'il vous plaît, soyez moins agressif. On ne crie pas dans mon bureau. Et prenez ceci. Il s'agit des coordonnées du père abbé de l'abbaye de moines trappistes de Mariawald, en Allemagne. Il sera ce week-end à l'abbaye de Noirlac, et il vous attend. Mais c'est qui cet abbé? Et comment ça, il m'attend? Comme je ne pourrai pas répondre en détail à toutes vos interrogations, je préfère que d'autres, plus compétents que moi, s'en chargent pour des raisons que je ne souhaite pas évoquer avec vous. Le père vous attend déjà. C'est une autorité en matière de légatie et il sera votre meilleure source. Il vous expliquera aussi le nouveau rôle qui vous a été attribué. Oui, eh bien, mon rôle, justement, parlons-en. J'ai toujours mes questions sur le feu. La première, si c'est un legati, comme vous dites, qui a profité de fenêtres ouvertes pour venir nous effrayer depuis 2 jours. Donc, pour reprendre vos explications, un être humain transformé en une espèce d'animal, alors c'est qui? Et il vient d'où? Et pourquoi est-ce qu'il est venu? Je suppose qu'il n'était pas là par hasard, puisque j'ai passé mon temps à fermer des fenêtres qui s'ouvraient par enchantement. Il y a donc un complice à l'intérieur, dans le dortoir, non? Frédéric. Arrêtez de parler comme vous le faites. Vous vous énervez tout seul, c'est mauvais pour le cœur. Et puis, Guilhem et Kevin vous répondront. Ils le connaissent très bien, votre intrus. Je m'écrase au fond du fauteuil. Songeur, presque contemplatif. J'avais presque aussi envie de rire nerveusement. C'est drôle ça. Mais ce que vous me dites, ça ne m'étonne qu'à moitié. Je pressentais que ces deux-là n'étaient pas tout blancs. Alors déjà, Guilhem avec son ridicule jeu du gardien, hein. Mais je mets ma main au feu que son pote Lewis est aussi dans le secret. Maintenant, votre réponse n'en est pas vraiment une. Je vous dis que Guilhem et Kevin vous répondront mieux que moi. Je peux vous l'assurer. Donc, le problème de santé de Kevin, c'était lié tout ça à cette histoire de legati? Mais Frédéric, c'est vous qui vous êtes mis dans la tête que Kevin avait un souci de santé en particulier. Vous l'avez vu éternuer, vous l'avez vu à moi un mal de crâne, et ça y est, vous avez pensé que quelque chose d'horrible lui était arrivé? Mais je vous rassure, Kevin va très bien. Je dus reconnaître que Kevin était sorti de son état comateux plutôt rapidement. Mais j'avais pas fait tout de suite le rapprochement. Bon. Je garde Kevin et Guilhem sous le coude pour une longue conversation, à mon avis. Seconde question, monsieur le proviseur. J'ai donc compris avoir été choisi comme chef. Alors, on va dire ça comme ça, de ces legati. Bon, allez, admettons. Mais pourquoi moi et pourquoi faire? Et si j'ai pas envie de connaître leur petite communauté de mutants, là? Il se passera quoi? Pourquoi vous, Frédéric? Mais je vais vous répondre comme le ferait un chef d'entreprise. Parce que votre profil était en adéquation avec le marché. Qui plus est, que vous acceptiez ou non n'impacte en rien le cours des événements, puisque le choix ne vous appartient pas. Vous avez été désigné. C'est tout ce que vous avez à savoir. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas spécialement contraignant. L'abbé vous expliquera ça mieux que moi. Puis, il y a quantité de choses dans la vie que d'autres choisissent à notre place, vous savez, et ce n'est pas toujours pour nous desservir. Les choix consentis ne sont pas mécaniquement meilleurs que les choix qu'on nous impose. D'accord, donc je n'ai pas le choix et l'abbé me dira tout. Et petite question en passant, qui était leur chef avant moi? C'est possible de le contacter ou peut-être de suivre un petit stage découverte avec lui, histoire de me mettre dans le bain avant de prendre du service, non? Non, cessez l'ironie, Frédéric. Oui, avant vous, il y en avait un. Et il ne peut y en avoir qu'un seul, mais il n'est plus. Guilhem et Kevin le connaissent, bien entendu. Eh bien, ils en savent des choses, ces deux-là. Ça doit drôlement leur chatouiller le gosier en ce moment de garder toutes ces cachotteries. Et c'est donc un sale chef pour tous les legati du monde? Non, c'est bien sûr plus par opportunité géographique, ça n'a rien de formel. C'est un peu comme un bureau de poste. On profite des services de celui qui est le plus proche de chez nous, sans qu'on y soit forcément rattaché. Ah, d'accord. Donc en fait, je suis un nouveau facteur. Mais en attendant que je voie l'abbé, j'imagine que vous êtes à même de me dire dans les grandes lignes en quoi consiste ce rôle de chef, non? Frédéric, c'est vous qui utilisez ce terme de chef, mais ce n'est pas le terme le plus approprié. Au début de notre conversation, j'ai davantage utilisé le terme de mentor, parce qu'il s'agit justement davantage d'une fonction de guide, d'être un référent, un conseiller, voire un confident. Ce n'est rien d'autre, du moins en période calme. Ah! Parce qu'il y a des périodes avec et des périodes sans. Frédéric, c'est comme au travail, non? Les legati sont sujets aux vicissitudes de la vie comme tout le monde. Et vous constaterez avec le temps que bien des aspects de leur vie transcendent les limites de la misérable vie du commun des mortels. Et voilà les gens, c'est fini pour ce soir. Ah, demain la suite, je sais que ça vous gratouille, mais il faudra attendre 24h, ou plutôt 23h30, pour écouter la suite de ce chapitre 8, dans lequel Frédéric n'est vraiment, vraiment, vraiment pas au bout de ses surprises. Le replay sera bien entendu disponible dans quelques minutes, hein. Les replays des lectures précédentes sont également déjà disponibles sur le Facebook, sur la page Facebook d'Exilium. Donc, si vous souhaitez jeter un œil parce que vous n'avez pas suivi les lectures précédentes, n'hésitez pas, jeter un œil, mais surtout ouvrir les oreilles. Il y a un résumé qui est attaché à chaque vidéo, donc vous ne serez jamais perdu, vous aurez toujours un fil de l'histoire qui vous sera proposé. Allez, maintenant, je passe au message. Oh là là, il y en a pas mal. C'est parti, je remets les lunettes. Alors, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Valérie, toujours fidèle au poste. Alors Valérie, comme d'habitude, je fais un gros coucou et une grosse bise. Valérie, pour ceux qui ne savaient pas encore, je le rappelle, était ma collègue de travail en vie scolaire, au lycée où se déroule le roman. Avec Valérie, on a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup engueulé aussi. À chaque fois, elle disait que je la faisais chier, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. J'en ai d'excellents souvenirs. Et Valérie apparaît également dans le second tome d'Exilium. Je crois que c'est dans le second tome. Gaëlle, c'est très gentil d'être passé. Bonsoir, ma petite Gaëlle. Je te fais de gros bisous. Marie-Madeleine, qui est fidèle au poste. Alors, Marie-Madeleine, tous les soirs, elle est là. Elle écoute avec attention. Elle m'avait même dit les premiers jours qu'elle écoutait les replays le matin au petit déjeuner quand elle ne pouvait pas les écouter le soir, tout simplement. Madeleine, merci, bonsoir, et je t'embrasse également. Valérie, elle est encore là, me fait des gros... Moi, si, je te fais des gros smileys. Mélanie, sa fille. Ouais, bah moi aussi, tiens, regarde. Tac, tac, tac. Je fais des gros machins. Des gros biscottos. Mélanie, William est à fond. Valérie, encore là. Stéphane, salut Stéphane. C'est sympa d'être passé également. Stéphane, c'est un ancien élève à moi à l'époque où j'étais surveillant. On appelait ça des surveillants. Alors Stéphane, j'étais à l'époque où j'étais surveillant, je crois, au collège 10h, si mes souvenirs sont bons, dans l'Allier. William Bousma, salut William, bah, c'est la première fois que je te vois, enfin que je te vois, mais tu étais peut-être déjà à l'écoute auparavant. Salut William, écoute, je te sors la main, hein, comme deux mecs. Valérie qui me laisse un... Ah, beautiful, ben oui, mais toi aussi t'es beautiful, ma petite Valérie. elle m'envoie plein de gros cœurs. Alors ce nouveau smiley qui apparaît sur certains messengers, c'est-à-dire ça représente un smiley en fait souriant avec trois cœurs répartis autour du visage. Moi je ne l'ai pas encore, je ne sais pas pourquoi, je sais que ça dépend des mises à jour de son messenger sur son mobile, moi je ne l'ai pas encore. Alors j'attends avec impatience parce que là j'ai du mal à vivre. Et Valérie, Valérie elle m'a bombardé de bisous aujourd'hui, il va falloir un jour que je lui rende ça, je ne sais pas comment. Allez, il est 19h05, je ne voudrais pas vous prendre davantage de temps. Demain, donc, on se retrouve comme d'habitude à 18h30. Je lance toujours le générique 2 minutes avant. Et ensuite, je fais partir la lecture 2 minutes à peu près après également. Parce qu'il y a toujours des petits retardataires, mais c'est pas méchant. Je vous embrasse tous. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présents ce soir. Et je vous dis, donc demain à 18h30, soyez là parce qu'il y aura plein de surprises dans la lecture. Gros bisous, au revoir. Alors, j'ai essayé de cliquer sur le bon truc, j'ai perdu ma souris. À demain.